Je m'appelle Rachel Chéné et je suis art-thérapeute.
Je suis art-thérapeute.
Je suis art-thérapeute.
Je suis art-thérapeute.
Notre invitée aujourd'hui tient une place très spéciale dans la communauté. Elle est mère, art-thérapeute, entrepreneur sociale. Elle coordonne le réseau des Ruches d'or depuis 2014. Son travail de consultante et de formatrice pour l'Institut des Ruches d'or l'amène à enseigner et à donner des conférences de façon internationale, particulièrement socialement impliquée. Elle est également vice-présidente de l'ATQ depuis 2020. Et elle a présidé la conférence de l'Association canadienne d'art-thérapie en 2018. En plus d'avoir démarré plusieurs ruches d'art à Montréal, c'est sûr que notre introduction ici aujourd'hui, elle n'est pas exhaustive du tout. Le portrait et le paysage de tout ce qu'elle a réalisé est probablement vaste, comme une forêt de ruches. Bref, vous savez peut-être de qui je parle, mais on a la chance d'en parler en tête-à-tête avec elle aujourd'hui. On aimerait vraiment mettre en valeur sa façon de pratiquer l'art-thérapie. C'est bel et bien avec Rachel Chéné qu'on a la chance de discuter aujourd'hui. Bonjour Rachel.
Bonjour.
Allô, Rachel.
Merci
Allô.
D'être là.
Merci. Ça me fait tellement plaisir.
Quand Emmanuel et moi, on discutait à savoir qui on allait interviewer prochainement, on a pensé à toi, vraiment. On avait hâte de te rencontrer. Notre choix était déjà fait parce qu'avec toi, c'est d'ouvrir une porte sur des conversations essentielles. C'est la place de l'art dans la communauté. Mm-hmm. Et on aimerait vraiment mettre de l'avant ton implication sociale et de t'entendre sur tes expériences.
Merci.
On sent que ça va être une belle discussion abondante. Mais on va commencer par le commencement. On voulait savoir, on pose souvent la même question aux invités parce que c'est un peu la genèse, mm-hmm. c'est de ta carrière, de ton histoire. Comment t'as rencontré l'art-thérapie pour la première fois ou, en d'autres mots, qu'est-ce qui t'a donné envie de te former, d'aller te former comme art-thérapeute?
Merci pour cette question-là. C'est vrai que c'est intéressant de commencer par le début. Dans le fond, moi, en 2003, je faisais un certificat en arts plastiques à l'UQAM. Mmh. Je savais que je voulais me diriger vers les arts, mais j'avais pas forcément envie, tu sais, d'être seule à créer dans un atelier d'artiste, ni d'enseigner non plus. Puis je me disais, tu sais, il doit bien y avoir quelque chose d'autre qui existe. C'est sûr que déjà, je m'intéressais beaucoup au rôle social de l'art. Comment est-ce que l'art amène les gens ensemble, amène les gens à se parler, se connaître, puis fait aussi, met en lumière certains enjeux sociaux, notamment là, par l'art de rue, les murales, tout ça. Mm-hmm. C'est quelque chose qui m'avait toujours interpellée. Puis il y avait une collègue avec qui j'allais à l'école qui, un jour, m'a invitée à aller voir une exposition des impatients. Mm-hmm. Puis là, je me suis dit, OK, mais c'est ça, tu sais, je savais qu'il devait bien y avoir quelque chose d'autre, puis ça m'a beaucoup touchée, puis je me suis mis à chercher, tu sais, qu'est-ce qui existe comme formation en art-thérapie, puis tout ça. Puis assez rapidement, j'ai trouvé la formation à Concordia, qui était à ce moment-là la seule à Montréal. Mm-hmm. J'avais déjà étudié en anglais au cégep, fait que c'était pas tant une barrière là, pour moi d'étudier en anglais. Donc, j'ai fait le reste de mes études au bac de façon à me préparer pour cette maîtrise-là. Puis, je remémorais un peu, tu sais, après cette exposition-là, qu'est-ce que j'avais fait. Je me suis retrouvée à être bénévole pendant un moment aux impatients, mais j'ai aussi pensé aux livres que j'ai achetés pour les lire. Puis le tout premier, ça a été le journal créatif d'Anne-Marie Jobin. Je pense qu'il y en avait juste un qui était sorti à ce moment-là.
Ah, oui.
Le tout premier.
Le blanc avec le
avec
l'arbre.
Un arbre, oui, exactement. Fait que c'était un livre qui était sorti depuis peut-être un an ou deux à ce moment-là. Puis c'est le premier livre d'art-thérapie. Les art-thérapeutes américains là, qu'on étudiait à Concordia, je les connaissais pas du tout. Ça mm-hmm. a pris jusqu'au moment de mes études pour que je les connaisse. Donc, j'ai lu aussi les livres d'Alexandra Duchâtel, puis je m'étais acheté des livres sur Jung. Mm-hmm. Fait que je me suis mis à lire, tu sais, vraiment pour me familiariser avec ce domaine-là. J'étais allée aussi là, à peu près dans ces années-là suivre un atelier de sculpture, pas de poterie, mais de, comment on dit ça, là, de façonnage de l'argile mm-hmm. avec Alexandra Duchâtel au Centre Gaïa sur Laurier. Okay. Ouais, fait que c'est un peu mes premiers contacts là, avec l'art-thérapie à ce moment-là.
Contact direct, main dans la terre.
Les mains dans la terre.
Mais pour nos auditeurs qui ne savent pas c'est quoi une ruche d'or, là, concrètement, comment oui. tu pourrais nous décrire?
On en parlait dans l'intro, puis on oui. va beaucoup en parler aujourd'hui.
Parfait. Donc, oui, très bonne définition.
Oui.
Donc, c'est un atelier d'art qui est ouvert à tout le monde, qui est autodirigé. Donc, la personne, le participant, la participante va faire ses propres choix créatifs, va être invité à découvrir les matériaux, puis à s'inspirer de ce que les autres personnes qui sont présentes sont en train de créer également. Puis ça va être gratuit, ça veut pas dire qu'on est bénévole. Souvent, les gens pensent que quand il y a gratuité, c'est parce qu'on est bénévole. Souvent, ça va être financé par des fondations privées, des organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux. Mais ça va être offert à la clientèle gratuitement dans une optique d'inclusion pour que, peu importe la grandeur de son portefeuille, les gens soient bienvenus de participer. Puis c'est donc pour tous les âges. Ça vise à être intergénérationnel, interculturel, à amener des gens qui n'auraient pas l'occasion forcément de se parler, d'être assis à la même table puis de créer ensemble.
Wow, c'est très ouvert.
Oui, et c'est une approche assez ouverte.
Oui, c'est ça. Comment est-ce que ce concept-là est apparu dans le domaine de l'art-thérapie au Québec?
OK. Ben, c'est vraiment
dans ta vie aussi,
oui,
par
ben,
le fait
même. C'est un peu, oui, puis ça va ensemble dans un sens, parce que c'est une professeure qu'on a eue à l'Université Concordia, Janice Timbotos, qui est une professeure américaine qui vivait aux États-Unis, au Nouveau-Mexique avant sa venue au Canada, puis qui travaillait de cette façon-là. Elle a commencé sa carrière en travaillant avec des personnes en situation d'itinérance. Puis de fil en aiguille, elle s'est rendue compte que un coup que les gens de cette clientèle-là se sentaient bien à l'aise, bien ancrés dans l'atelier, ils avaient envie justement de créer des liens avec d'autres personnes dans la société, de faire connaître leur art, leur créativité, puis d'apprendre des autres aussi, d'avoir ce terrain d'échange-là. Mmh. Donc, en 2001, elle a créé ce qu'on pourrait appeler la première ruche d'art, mais ça portait pas ce nom-là à ce moment-là. Puis en 2010, elle est venue enseigner à Concordia. Elle était invitée, je pense. Ben, tu sais, elle a postulé comme tout le monde, mais mm-hmm. tu sais, Concordia cherchait vraiment à ce moment-là à avoir quelque chose de plus communautaire. Je pense que c'était une demande dans la communauté étudiante, tout ça, mm-hmm. et puis la communauté professionnelle, qu'il y ait quelque chose de plus communautaire. Donc, elle est arrivée en 2010, puis moi, par les synchronicités multiples, c'est l'année où j'ai commencé ma maîtrise. Mmh. Donc, elle est arrivée, elle était nouvelle comme prof, moi j'étais nouvelle comme étudiante. Puis, je pensais déjà, depuis un moment, à un concept comme ça. Le seul truc, c'est qu'à ce moment-là, parce que moi j'avais travaillé au Musée d'art contemporain, dans les ateliers, peut-être entre 2007 à 2010, à peu près, juste avant de commencer mes études. Je venais de terminer un été même aux ateliers. Puis je me disais, pendant tout le temps que je travaillais, je me disais, ce serait donc génial si on pouvait avoir des espaces comme ça, mais où les gens peuvent venir quand ils ont envie, créer ce qu'ils ont envie de créer, parce que pas tout le monde a accès à la maison, à un espace atelier ou les moyens nécessairement de s'équiper avec des matériaux. Puis d'avoir comme des... Je m'excuse, des espaces publics où les gens peuvent venir créer. Puis même durant mon temps à l'UQAM aussi, je me disais ça. Tu sais, je me disais, on a tellement des belles installations pour la création artistique ici, tu sais, si le public pouvait en bénéficier. Fait que déjà, je jonglais beaucoup avec ces idées-là. J'avais aussi l'idée d'un café créatif où les gens pourraient venir prendre un café puis faire de l'art. Puis bref, dans ma tête, c'était comme deux choses. Tu sais, c'était comme des ateliers collectifs ou l'art-thérapie. Je voyais pas forcément l'intersection entre les deux parce que la façon dont le programme à Concordia se présentait avant la venue de Janice, c'était plutôt clinique, psychodynamique. Oui. Fait que je voyais pas tant le lien. Puis quand elle est arrivée puis qu'elle a parlé de son parcours, j'étais comme, mais attends un peu, là. Non seulement ça existe déjà, des espaces comme ça, mais en plus, ça fait partie du parapluie de l'art-thérapie. Puis ça a toujours été un sujet de débat, un peu. Est-ce que oui. ça en fait partie ou est-ce que ça en fait pas partie? Mais bref, on pourra en parler davantage, mais pour conclure comment les ruches, puis dans le fond, puis pourquoi moi, puis bref, je suis allée la voir pour lui poser des questions, puis lui demander, bon, mais comment on fait ça, comment on part ça, un espace comme ça. Puis assez rapidement, je me suis retrouvée à travailler comme auxiliaire de recherche avec elle, puis on a parti un premier projet dans des logements sociaux qui s'appelle les habitations Saint-Sulpice dans le quartier antique de Montréal. Puis l'année d'après, la première ruche d'or, la ruche d'or Saint-Henri, qui a ouvert en 2011, puis qui a malheureusement fermé en 2020.
Oui, je m'en rappelle.
Mais ouais, ça a été la première là, à Montréal qui a eu quand même presque 10 ans. Là.
Quand même, c'est la genèse du mouvement des ruches.
Puis du nom ruche d'or, de cette appellation-là.
Okay. Oui. Ah, ça nous fait vraiment merci, hein, ton résumé est comme parfait, ça nous fait un beau topo là, oui. Sur l'histoire court et concis et personnalisé à toi, justement,
oui,
parce que
ouais.
Ta rencontre avec Janice a été vraiment déterminante. Là.
Absolument. Ouais, ouais, ça a changé tout le cours de ma carrière. J'ai aucune idée si Métal n'avait pas du tout été à Concordia, là. Qu'est-ce que moi j'aurais fait? Parce que moi j'y allais, là. J'ai appliqué, j'ai été prise. Je ne m'attendais pas forcément à être prise, je savais que c'était très contingenté, fait que j'avais toujours des plans B en tête, mais tu sais, ouais, des fois ça peut être intriguant de se demander ça aurait été quoi sinon, tu sais. Ouais, il y a des rencontres comme ça qu'on fait des fois qui changent un peu tout, là. Ça, c'en était une, c'est sûr.
Vraiment.
Ouais.
Ouais.
Puis, il y a combien de ruches d'or, en fait?
Dans le monde?
Ben,
je pense qu'on est à 293 en ce moment, quand même.
Puis au Québec?
Autour de 40. Ça fluctue beaucoup ces dernières années. Il y en a avec la pandémie qui se sont terminées. Il y en a plusieurs nouvelles qui sont en branle. Ça, c'est quelque chose qui me réjouit, qu'il y en ait dans plusieurs régions du Québec. Tu sais, ça a beaucoup commencé à Montréal, puis même... je vous dirais, dans un Montréal un peu plus anglophone, étant donné que c'était Concordia, étant donné que Janice était anglophone aussi. Tu sais, ça a plus commencé de ce côté-là. Puis de plus en plus, là, ça se remplit, en tout cas, ça se propage dans les régions. J'ai offert une formation en ligne au mois d'avril, puis il y avait des personnes de... plusieurs régions du Québec, le Gaspésie, Saguenay-Lac-Saint-Jean, la région de Québec, la Mauricie, l'Estrie. L'Estrie, il y en a beaucoup aussi, oui. Déjà, là. Toi, Emmanuel,
ouais,
c'est ça. Ouais. Fait que c'est la deuxième région, à part Montréal, là, où ça s'est développé le plus. Puis la Montérégie aussi, c'est très, très répandu, mais il y en a aussi dans les Laurentides. Il y en a un peu partout, là.
Puis il y a des concepts aussi très différents, comme j'en ai vu en Nouvelle-Écosse. Je pense que c'était plutôt éphémère, mais il était dans un bateau.
Exact, ouais.
Il y a toutes sortes de belles choses qui se créent, là.
Ouais. Ouais. De plus en plus, même, il y a de l'intérêt pour ça, là. Je vous dirais que durant cette formation-là, là, ça a été beaucoup discuté, les ruches d'or mobiles, que ce soit dans des minivans, des autobus, des bateaux même. Tu sais, au Québec, le fleuve est quand même une place prépondérante, là, puis l'idée d'avoir un bateau ruche...
c'est le rêve, ouais. Le voyage est de l'or.
Wow. Sérieusement, oui, absolument, wow. C'est le rêve.
C'est incroyable. Puis dans l'historique des ruches, il est apparu l'Institut.
Oui.
À un moment donné, dans cette histoire-là, à partir de quelle année ça a été créé, l'Institut?
Dans le fond, on a fait un premier Institut des ruches d'or en 2015. Fait que ça fait quand même un bout de temps. Ça a été le premier. C'était à la ruche d'or Saint-Henri. Au début, ça consistait d'un truc en particulier qui était une formation de 3 ou 4 jours. Où vraiment on couvrait les bases. Là. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut démarrer une ruche d'or? C'est quoi les théories d'abord, tu sais, de s'ancrer un peu dans ce qui se fait déjà, pourquoi, les fondements théoriques. Puis ensuite, comment on finance ça? C'est quoi l'approche de facilitation, tout ça? Puis, encore une fois, peut-être un aspect qui est possiblement controversé dans le monde de l'art-thérapie, mais c'est pas réservé aux art-thérapeutes, la facilitation de ruches d'or. C'est quelque chose qu'on enseigne au plus grand nombre avec une vision très large, c'est-à-dire qu'on sait qu'on est dans un monde qui est quand même un peu perpétuellement en crise depuis plusieurs années, puis peut-être depuis toujours, je sais pas. Mais, tu sais, que ce soit au niveau climatique, au niveau santé publique, santé mentale, puis au niveau, évidemment, des guerres qui sévissent un peu partout, on croit que d'avoir des rencontres créatives, des lieux où les gens peuvent se parler, apprendre à se connaître, à travers la créativité, l'imagination, que ça peut être extrêmement porteur et pour le mieux-être individuel et pour la solidification des liens qui nous unissent ou parfois qui nous déchirent les uns des autres. Mais on espère que en s'assoyant possiblement à la même table, qu'on puisse apprendre à se découvrir, puis à peut-être avoir moins de préjugés les uns vers les autres. C'est ça le souhait. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on le partage avec tout le monde, parce qu'on pense que le monde en a bien besoin, puis qu'il n'y a pas encore assez d'art-thérapeutes pour couvrir tous les coins, les petits recoins de la Terre.
Mm-hmm. Donc, je me mélange peut-être entre le mot « institut »
Ah oui, excuse-moi, j'ai complètement amené ta question ailleurs.
Bien, c'est correct. Oui,
c'était une formation... Donc, il y a toujours eu le réseau des ruches d'art.
C'est ça, c'est le réseau que je voulais savoir.
OK, le réseau... mais maintenant, c'est ça. Le réseau a commencé en 2014, fait que c'est à peu près en même temps aussi que l'Institut. Donc, il y avait le réseau, une plateforme web, donc, avec une carte, c'est simplement Google Maps.
Le site web qui est, on va le donner pour ceux qui
sont curieux. lesruchesd'art.org,
oui,
au pluriel, lesruchesd'art, art au singulier, .org. Je ne sais pas s'il y a moyen de le mettre quelque part quand le podcast est diffusé.
En commentaire.
Oui, parfait. Oui, absolument. Puis ça veut dire que quand vous partez en voyage, pour ceux et celles qui nous écoutent, allez sur le site et regardez dans la ville que vous allez visiter s'il y a une ruche d'or. Vous allez rencontrer des gens extraordinaires.
Oui, puis ouais, j'ai eu l'occasion de le faire un petit peu, ça, dans différentes régions du Canada. Et quand je suis allée dans le Maine aussi, j'ai eu l'occasion de visiter deux ruches d'or. En tout cas, ça m'a beaucoup touchée. Tu sais, tu arrives dans un endroit où tu n'as jamais été de ta vie. Puis il y a des personnes là qui t'attendent, qui font exactement le même type de travail, pour les mêmes raisons, guidées par les mêmes valeurs. Tu sais, t'as l'impression de rencontrer des amis, même si tu les vois pour la première fois. C'est très particulier, c'est une espèce de lien de... pratiquement comme une famille. c'est vraiment très cool. Mais juste pour démêler, OK. Donc, il y a le réseau des ruches d'or. Il y a cette cartographie-là des ruches d'or. Tout le monde peut créer une ruche d'or. C'est sûr que c'est l'idéal si les gens puissent suivre une formation. Mais à ce point-ci, on ne l'a jamais rendu obligatoire. Peut-être que ça irait à l'encontre de l'approche aussi. Ça a toujours été open source. Je pense qu'on dit en accès libre. En français. Donc, un modèle qui a vraiment été créé, qui a été mis dans le monde pour que les gens se l'approprient puis s'en servent. Donc, l'Institut, c'est vraiment... maintenant, c'est un peu plus diversifié ce qu'on fait, là. Consultance, formation, formation courte, formation plus longue, plus débutante, plus avancée. Sur mesure aussi, là. J'aurai peut-être l'occasion de vous en parler dans des questions subséquentes.
La supervision, hein, du co-développement.
Du co-développement, on a des rencontres de communautés de pratique.
Oui.
En ce moment, quand je vous parle, c'est l'été. Je ne sais pas si ce sera l'été les gens écouteront, mais pour l'été, on est une fois par mois, puis durant ce qu'on pourrait appeler l'année académique, on est aux deux semaines. Donc, présentement, ces rencontres-là ont lieu les lundis après-midi à 13h, heure de l'Est, dépendamment où vous vous trouvez au moment où vous écoutez, mais on a souvent des gens qui sont aussi... en Europe, qui nous rejoignent. C'est toujours bilingue, donc, parce qu'on a souvent, presque à chaque fois, au moins une personne qui parle pas du tout français, puis une personne qui parle pas du tout anglais. Donc, avec une collègue, Mélissa Sokoloff, on anime cette rencontre-là. Elle facilite en français, moi en anglais, puis on accueille tout le monde. On en a tellement discuté de ça, tu sais, est-ce qu'on devrait faire des groupes séparés, français, anglais? Puis tout le monde finit tout le temps par dire « ben oui, c'est plus long quand on traduit, mais c'est tellement plus riche, tu sais, on bénéficie des savoirs de tout le monde. Il y en a qui vont se trouver aux États-Unis, d'autres en France. On a même eu des gens en Afrique qui nous ont rejoints.
Wow. » Donc, voilà. Et je trouvais ça important de mettre ça en lumière parce que mine de rien, c'est devenu une de tes identités, en tout cas professionnelle.
Oui, c'est sûr que oui.
Tu coordonnes ce réseau-là. Je veux dire, pour moi, puis je pense que pour beaucoup d'art-thérapeutes, t'es pas mal le visage des ruches d'art au Québec avec Janice, là, je veux dire.
C'est sûr que dans le monde francophone, surtout, je pense que c'est devenu moi parce que c'est ça.
T'es la francophone.
Le fait de parler français, puis de pouvoir représenter... puis pour moi, c'était très important, tu sais, qu'on ait justement le site. Quand il a été créé, c'était la version anglaise, c'était arthouse.org. Puis pour moi, c'était même pas une question qu'il fallait qu'on ait le pendant francophone, puis qu'on traduise les contenus, puis... De plus en plus, on a des gens qui prennent notre guide pratique, qui est un petit PDF gratuit qui est sur le site, puis il a été traduit en espagnol et en ukrainien.
Wow!
Par des gens qui ont dit, ben moi, je trouve qu'on a besoin de ça dans mon pays, puis je vais le traduire.
Magnifique!
Et ouais. Oui, vraiment. Puis ça ouais. m'amène à te demander si tu accepterais de nous raconter des histoires, des anecdotes de ta vie de professionnelle qui te rendent fière.
OK. Ben là, c'est sûr qu'il y a un truc récent... que j'ai pas le choix de mentionner parce que c'est encore renversant pour moi, même si ça s'est terminé. C'était grâce à... Ça s'appelle ELIA, c'est le European Leagues of Institutes of the Arts. Puis c'est une grande organisation internationale, surtout européenne, mais l'Université Concordia en fait partie. Puis une professeure, Rebecca Duclos, qui est aussi l'ancienne doyenne, elle s'est mise à faire beaucoup de travail en Ukraine, puis avec les réfugiés ukrainiens un peu partout en Europe. Puis elle a commencé à parler des ruches d'art avec les gens là-bas. Puis on a été invités à monter une formation. Il y a eu 108 personnes qui se sont inscrites à la formation. Je ne crois pas avoir donné... J'ai donné des conférences à des groupes plus grands que ça, mais des formations. C'était quand même 12 heures de formation. Je pense que c'était mon plus grand groupe.
C'était où? Est-ce que c'était en ligne?
C'était en ligne. OK. Ouais. Je ne me suis pas rendue en Ukraine.
Je comprends.
Mais je ne sais pas si ce serait possible, mais il a été discuté que peut-être on puisse se rendre en Pologne pour rencontrer certaines des personnes qui ont participé et qui nous ont aidés à organiser. Puis il y avait deux... pour dire, il y avait des arts thérapeutes, il y avait aussi des artistes, puis des artistes de vraiment toutes les disciplines. Hein. Musique, cirque, théâtre...
Wow!
Name it, les arts visuels, évidemment. Mais très, très varié là, comme participation, puis vraiment avec l'objectif d'utiliser les méthodologies des ruches d'art pour amener les arts dans les communautés qui sont affectées par la guerre. Parfois, il s'agit de vétérans, il s'agit d'enfants dont les parents sont au combat, ou de personnes qui ont été endeuillées par la guerre, évidemment, puis aussi de... à chaque fois que j'en parle, j'ai des frissons. Ils ont des abris anti-bombes. Donc, parfois, il y a des alertes, ils les reçoivent sur leur téléphone cellulaire, puis ils doivent aller s'abriter dans un endroit souterrain, parce que là, ça indique qu'il va peut-être y avoir une attaque, des bombes qui vont être lancées. Donc, ils vont se cacher là. Puis pendant qu'ils sont là, des fois, ils restent des heures avant que ce soit sécuritaire de ressortir. Puis évidemment, c'est dans beaucoup d'angoisse parce que tu sais pas, pendant que tu es là, est-ce que ta maison va avoir été bombardée, ton école? Est-ce que des gens vont être morts? Puis ils sont là-dedans, puis il n'y avait pas grand-chose à faire dans ça. Fait que certains d'entre eux, notamment des art-thérapeutes de Kharkiv, qui ont commencé à faire des ruches, à apporter des matériaux.
Incroyable!
Pendant que les gens sont là. Puis il y a des photos, je pourrais vous les envoyer, c'est des photos qui sont déjà publiques, c'est sur Facebook, mais... les adultes, ils tissent des sortes de filets qui vont par-dessus l'artillerie militaire ukrainienne pour les cacher des missiles ou des attaques aériennes russes. Donc, les filets vont être, mettons, quand c'est l'été, ils vont être comme couleur terre, brun, là, camouflage. Quand c'est l'hiver, ils vont être blancs, parce qu'il y a de la neige. Fait que les adultes tissaient ça pendant que les enfants faisaient de la peinture, du dessin.
Oh, Seigneur.
C'est quand même... Wow. T'sais, c'est incroyable, là, je veux dire. C'est une des expériences que j'ai eu à vivre là, comme art-thérapeute puis comme responsable des ruches d'art qui est la plus renversante, la plus touchante. Puis, t'sais, la résilience aussi des gens. Puis, t'sais, le type de questions qu'ils vont avoir, là, t'sais. Ils vont dire, ils m'ont dit, mettons, si je demande une subvention puis que finalement, je peux pas faire le projet parce que l'endroit a été bombardé, qu'est-ce qui arrive? C'est des types de questions comme ça que je recevais des participants. T'sais.
Incroyable.
Fait que c'est tout tellement une autre réalité là, que celle qu'on vit ici au Canada. C'est complètement, complètement différent.
C'est drôle parce que tu réponds un peu, en tout cas partiellement, à une des questions que je voulais te poser. Je vais me permettre de switcher.
Okay. Vas-y, vas-y.
Puis on reviendra à d'autres de tes succès ou des beaux... de tes belles fiertés. Je demandais pourquoi les ruches peuvent changer le monde.
Oh, OK. C'est une grande question, hein?
Mais je trouve que ton exemple
parle
de quelque chose.
Puis je pense aussi qu'au niveau de... Là, c'est de répondre à, tu sais, une population qui a vécu une guerre, mais un peu partout. Puis même, tu vois, à Concordia, il y a eu, tu sais, dans le contexte de la guerre Israël-Palestine, il y a eu des violences sur le campus de l'université, des gens qui en sont venus aux coups, aux insultes. Tu sais, c'est passé dans les nouvelles, tout ça. Fait que, tu sais, je pense que les répercussions des conflits internationaux, des conflits entre différentes, soit religion, ethnicité, tu sais, il y a des répercussions partout.
Oui.
Puis moi, ce que je pense, c'est que ça peut aider des fois, peut-être, je l'espère, je sais pas. C'est un rêve plus qu'un.
Mm-hmm.
Je peux pas affirmer ça. Mais quelque part, j'ai l'impression que si les deux groupes qui s'opposent pouvaient être assis à la même table, puis créer ensemble, puis apprendre à se connaître, puis à découvrir tout ce qu'ils ont en commun, malgré leurs différences, leur humanité partagée.
Mm-hmm.
Tu sais, les humains, on vit un peu tous les mêmes émotions. Mm-hmm. Tu sais, on souhaite tous vivre en santé, dans un environnement sain, agréable, voir nos enfants grandir, tu sais, pouvoir trouver du sens dans les activités qu'on fait au quotidien. Donc, tu sais, de pouvoir retrouver cette humanité-là dans des gens avec qui on se sent en opposition, en conflit, je pense que c'est vraiment ça. Puis ça peut se faire à toute petite échelle au niveau d'un quartier, comme ça pourrait se faire à une échelle plus...
mondiale.
Plus globale, ouais.
C'est ça, exactement. Ben, tu vois, moi, j'ai osé poser cette question-là comme une affirmation parce que j'y crois, tu sais.
Mm.
J'ose assumer, j'ose prétendre que oui, les rugeurs peuvent changer le monde. Puis, je trouvais que ton exemple relatait tellement bien au niveau mondial, en tout cas, au niveau plus grand que nos petits quartiers, tu sais.
Exactement.
Mais nos petits quartiers font partie du changement
exactement,
aussi.
Exactement, tu sais, un peu partout. Le plus il peut y avoir de rencontres interculturelles, intergénérationnelles, je pense que c'est vraiment au quotidien, que ça se crée, cette idée-là de coexistence, puis au-delà de la coexistence, tu sais, de vraiment, c'est ça, créer des liens, du tissu social.
Ah oui, vraiment, vraiment.
Au lieu de tisser des filets à bombe, là, si on pouvait tisser du lien social à la place.
Oui, le monde, c'est ça.
Ouais.
Le monde serait plus doux, hein? Mais c'est un peu, j'ai envie peut-être de juste faire une petite parenthèse là-dessus, parce que comme facilitatrice d'une ruche d'art à Sherbrooke, je l'expérimente, tu sais, au quotidien. Fait que ça me touche beaucoup, ce que tu me parles. Ça parle de mon quotidien dans les ruches aussi. Puis j'arrive souvent à la maison après faciliter une ruche un peu à l'envers, des fois.
Je comprends.
Mais dans le bon sens.
C'est souvent touchant. C'est souvent très touchant.
Les rencontres qui se font, les gens, tu sais qu'une telle personne est isolée ou tu comprends avec peut-être ses difficultés de mobilité ou de langage que c'est pas facile pour cette personne-là. Puis tu vois un peu les regards se poser sur cette personne-là au début versus à la fin. Puis il y a quelque chose qui se transforme juste dans le fait d'échanger le même pot de peinture des fois.
Puis une appartenance aussi, tu sais. Moi, j'ai souvent entendu des gens dire, tu sais, c'est la seule fois que je sors de chez moi de la semaine, ou c'est le seul endroit où quelqu'un m'attend, tu sais, où quelqu'un va se demander comment ça se fait que je suis pas venue si je viens pas, tu sais. Tu sais, des gens qui souffrent d'isolement, là, il y en a tellement, tu sais. Puis souvent, c'est des aînés, mais pas toujours. Pas toujours, là, c'est... De plus en plus, là, depuis la pandémie, puis avec les technologies qui prennent de plus en plus de place, puis les écarts qui se creusent entre les riches et les pauvres aussi. Donc, il y a énormément de gens qui vivent de l'isolement, puis des choses vraiment difficiles. Puis, il n'y a pas toujours, le système n'a pas toujours les ressources en place pour répondre à ça. Il y a énormément de gens qui, même s'ils voulaient se payer une thérapie individuelle, ils n'ont pas les sous, puis ils n'auront pas. Puis, il y a aussi des facteurs culturels. Il y a énormément... De groupes culturels pour lesquels c'est pas bien vu d'aller en thérapie, mais d'aller dans un atelier créatif, ça, il n'y a pas de problème. T'sais?
Exactement.
On en a tellement besoin.
Tout ça aussi, oui.
Oh oui, le nombre de communautés culturelles qui viennent à la ruche que j'anime, puis ça me fait toujours plaisir de voir que ça devient un lieu de rassemblement. C'est des parents qui viennent avec leurs enfants, mais qui se sont donné rendez-vous, puis que finalement, les enfants sont en train de créer, puis ils ont compris que c'était pas une pression de créer dans une ruche, puis ils se prennent un café, puis ils jasent, puis ils sont bien ensemble, puis ils rencontrent, puis ils parlent la langue d'origine, mais ils rencontrent d'autres gens.
Qui parlent cette langue-là aussi.
Langue-là, puis ils sont exposés au français aussi. Puis ils veulent apprendre. Fait que c'est comme des beaux lieux aussi d'intégration de nos nouveaux arrivants. Puis,
oui, puis qui ne sont pas dans une logique de productivité, tu sais, tellement de ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Oui. On va au travail, tu sais, on va à l'école, on doit obtenir des notes au travail, ben on doit, tu sais, être assidu parce qu'on a un salaire à gagner, on a des factures à payer. Puis, tu sais, quand est-ce qu'on se permet réellement de faire quelque chose pour soi, tu sais? Puis même, des fois, l'art, ça va être ça, tu sais, ça va être de créer pour avoir une production qui peut ensuite être exposée, vendue, etc. Mais de vraiment créer pour soi,
oui,
c'est important, tu sais, oui. Ça fait du bien.
Puis on donne cette permission-là, justement, ouais. Dans nos ruches, oui.
Souvent, les gens vont me dire, si j'étais restée chez nous pendant ces 2 heures-là, j'ai été ici, j'aurais rien créé, j'aurais pas créé, là. J'aurais fait du ménage ou j'aurais regardé la télé, mon téléphone, peu importe, mais... T'sais, le fait de se déplacer pour aller dans un endroit qui est dédié à la création, puis même quand c'est en ligne, t'sais, de simplement se connecter à une rencontre où il y a plusieurs personnes qui sont là dans le but de tous créer ensemble, ça fait une petite bulle protégée pour la créativité.
Mmh, absolument. Ouais. Excuse-moi, j'ai pris plein de parenthèses et de tangentes.
C'était vraiment intéressant. Puis, t'sais, on a parlé beaucoup de la versatilité, si je peux dire, des ruches d'or, comment est-ce que ça peut s'adapter à différents milieux, même en ligne.
Oui.
Ce serait quoi le milieu le plus inusité où tu aimerais créer une ruche d'or?
Un rêve, une fantaisie, quelque chose de fou.
Je ne sais pas si ce serait un lieu nécessairement. Je dirais vraiment que mon rêve, c'est que ce soit aussi répandu puis accepté que des bibliothèques, par exemple.
Mmh.
Tu sais, tout quartier, toute municipalité, même un petit village va avoir sa version d'une bibliothèque. Donc, moi, mon rêve, ce serait vraiment que chaque localité ait sa ruche d'or ou un espace, c'est pas obligé de s'appeler une ruche d'or, mais tu sais, un lieu où les gens peuvent se rassembler et créer. Puis aussi créer de l'art puis créer du lien. Tu sais, les deux, pour moi, c'est deux piliers vraiment fondamentaux de ce qu'on fait. C'est sûr que, tu sais, de façon, je sais pas, plutôt, tu sais, l'ego, on va dire, voudrait peut-être voir des ruches d'art dans, tu sais, les grands musées du monde ou, tu sais... mais vraiment, c'est d'en voir partout. C'est ça le plus important. Puis de trouver des façons aussi de traduire ce travail-là pour que ce soit quelque chose qui fonctionne dans d'autres pays où la culture est complètement différente. Là, ça a été une belle expérience en Ukraine, mais il y a tellement de différences d'un pays à l'autre dans les façons de faire, dans les façons de comprendre même. On me disait à un moment qu'en France, le mot « communauté », c'est plutôt péjoratif, tu sais. Il est plutôt question d'une communauté qui est un peu fermée sur elle-même, puis que c'est plus approprié pour ce qu'on fait de parler de collectivité que de communauté.
Intéressant.
La collectivité, c'est vu comme plus diversifié, alors que la communauté, ben ça va être comme un petit groupe vraiment spécifique.
Un peu ghetto.
Oui, je pense que c'est dans cet ordre d'idée-là.
Mm.
Mais tu sais, c'est toutes des choses que c'est à force de parler à des gens qui appartiennent à d'autres cultures que celles d'où moi je proviens que j'apprends ça. Fait que je pense que, tu sais, que ça puisse, c'est ça, se propager là, d'une personne à l'autre, d'un pays à l'autre. Puis tu sais, on n'arrive pas dans un pays qu'on connaît pas ou peu, puis on dit « Ah, faites des ruches d'or, on fait pas ça, on attend que les gens viennent à nous finalement, tu sais, c'est là, puis les gens nous découvrent... Je dirais dans la francophonie, hors Québec, hors Canada, ça a été vraiment les conférences annuelles là, d'Alice Albertini qui ont eu un énorme impact sur faire connaître les ruches d'or ailleurs en France, en Belgique, en Afrique, dans les
avec
Antilles
le
françaises.
Sommet virtuel.
Oui,
hein,
le sommet virtuel,
parles?
Merci.
Oui.
On dirait que j'avais pas le nom exact, mais le sommet virtuel.
Oui.
Exactement.
Oui, absolument.
J'ai fait partie du premier là, en 2021, puis... Oui. J'ai une avalanche de courriels et de demandes.
Wow! Ouais.
Fait que j'espère qu'à un moment donné, j'aurai aussi l'occasion de me rendre en France pour voir, pour voir toutes ces personnes-là. Puis,
on te le souhaite.
Ouais, mais merci, oui! Merci. Je vois ça dans ton avenir, là, rapproché.
Merci! Ça, puis le bateau riche d'or aussi.
Donc ça serait ton seul plus farfelu, peut-être, d'avoir...
Oui, bien, ça a été discuté, puis j'ai l'impression que... C'est pas si farfelu que ça. J'ai l'impression qu'au niveau même du ministère de la Culture au Québec, il y a beaucoup une volonté de rejoindre les régions.
Ben oui.
Tu sais, il y a tellement
vie culturelle à Montréal, puis bon, à Québec, tu sais, dans les plus grandes villes. Mais il y a beaucoup de régions qui sont un peu, tu sais, à l'écart là, de ça, de l'offre culturelle. Donc, de pouvoir avoir des véhicules, là, que ce soit sur roue ou sur...
Oh.
Ouais, c'est ça, des véhicules aquatiques. Je sais pas, je faisais un geste pour mimer la coque d'un bateau, mais en tout cas, des véhicules en tout genre qui transportent l'idée de la ruche et de la rencontre créative vers toutes sortes d'endroits.
Pour polliniser, finalement, c'est oui. un peu ça que tu disais, répandre. Oui. Le mot qui me vient tout le temps, c'est ben, les abeilles,
oui,
c'est
quoi, ça c'est que polliner, ça fait. Ouais, mm-hmm. Exactement.
Oui.
Ouais.
Mm. Ouais. C'est un beau symbole.
Ouais. Oh, wow! On va aller dans une autre question qui va nous amener dans une autre réflexion, mais mm-hmm. tu avais semé une graine tout à l'heure, puis je pense que c'était vraiment important qu'on y revienne. Tu sais, t'as fait mention que c'est quand même un sujet encore un petit peu controversé. Est-ce que les ruches oui. sont de l'art-thérapie et quels sont le rôle des art-thérapeutes dans les ruches, puis qu'est-ce qu'on peut apporter? Donc, j'avais envie qu'on en parle un petit peu plus. Ma question, ce serait... Puis après ça, on ira dans où mm-hmm. ça nous amène. Mais ma question, c'est comment toi, tu définis ton identité d'art-thérapeute dans une ruche?
Mm-hmm. Ben je pense que les art-thérapeutes sont très préparés à animer une ruche. S'il y avait une formation idéale à avoir pour animer une ruche, c'est sûr que c'est celle d'art-thérapeute. Là. Mm. Puis pour moi, est-ce que tu sais la question, est-ce que c'est de l'art-thérapie ou pas? Pour moi, c'est assez simple. S'il y a un art-thérapeute, c'est de l'art-thérapie. S'il n'y en a pas, ben ça n'en est pas. C'est-à-dire que pour moi, je vois ces méthodologies-là comme un outil qu'un ou une art-thérapeute peut choisir d'utiliser ou pas. Mais tu sais, quelqu'un pourrait faire que de la pratique privée, puis le vendredi après-midi, animer une ruche d'art, ou encore un ou une art-thérapeute qui travaille, disons, je sais pas, dans le réseau de la santé, puis qui voit des clients en individuel, en groupe, peut aussi choisir d'animer une ruche d'art dans ce milieu-là. Tu sais, je le vois vraiment comme... parmi les différents, si on imagine un coffre d'outils ou plutôt un coffre d'artiste mm-hmm. avec plein de différentes façons de pratiquer notre métier. Puis je pense que ces façons de faire-là, c'en est une parmi d'autres. C'est pas... ça cherche pas à prendre la place de quoi que ce soit d'autre, mais ça peut avoir une place, puis ça peut apporter quelque chose que peut-être d'autres façons de travailler apportent moins. Mm. Puis, peut-être pour répondre plus à la question, moi, comment je me vois dans tout ça?
Ouais, le rôle de l'art-thérapeute.
Ben, vraiment, tu sais, tenir l'espace, là, mm-hmm. tu sais, holding space, là. Vraiment, s'assurer que la ruche est le plus accueillante, sécuritaire, remplie de matériaux inspirants et de qualité et diversifiée, puis que chaque personne puisse y trouver sa place. Mm-hmm. Tu sais, c'est ça qui va faire le succès d'une ruche d'art. Je pense que les art-thérapeutes sont très outillés pour faire ça. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres personnes qui sont aussi outillées pour le faire? Oui, bien sûr que oui. Mais je pense que aussi, on est préparé, tu sais, peut-être à faire face à des situations plus complexes, plus délicates, où peut-être quelqu'un est en crise, ou peut-être qu'il y a des gens qui sont en conflit mm-hmm. dans la ruche d'art, puis à savoir comment intervenir. Mm-hmm. Puis c'est toujours important, de toute façon, d'être préparé à référer à l'externe. Mm-hmm. Fait que c'est un rôle, beaucoup, de, tu sais, de connecter les gens avec l'espace, avec les matériaux, les gens entre eux, puis aussi les gens à l'extérieur. Parce que de temps à autre, oui, tu vas avoir quelqu'un qui a des besoins plus grands que ce qu'on peut couvrir dans la ruche, qui aurait peut-être besoin de ressources à l'extérieur, que ce soit pour, tu sais, du logement, de la violence conjugale, des dépendances. Je pense qu'on a tout vu, là, tu sais, en 14 années, animer des ruches puis à organiser des ruches. Il y a pas grand-chose qu'on n'a pas vu. C'est ça, de toujours être en lien avec les ressources environnantes, puis comme ça, de pouvoir référer les personnes. Puis les limites sont extrêmement importantes
oui.
dans la ruche d'art, plus que n'importe où ailleurs, parce que des fois, dans d'autres contextes de pratique, le cadre thérapeutique est très, il est très précis. Mm-hmm. Dans la ruche d'art, c'est plus imprévisible. tu sais pas qui va venir, t'as pas leur historique quand ils arrivent, puis t'as pas non plus les 50 minutes, tu sais, je veux dire, des fois, les gens restent beaucoup plus longtemps, tu sais, c'est très différent.
Mais il y a un cadre quand même.
Il y a un cadre, ah oui, mais des fois, je le vois comme si c'était comme une ligne pointillée plutôt qu'une ligne fermée.
Mm.
Mais cette ligne pointillée-là, il faut qu'elle soit là, là.
Oui.
Il faut qu'elle soit là. Puis je pense que, de par notre formation en art-thérapie, on est bien préparé à pouvoir tenir ce cadre-là de façon à se garder soi en sécurité puis à garder les autres participants en sécurité aussi.
Mmh, tellement bien dit.
Oui, l'image du pointillé.
J'adore ça.
Oui. Merci pour ce premier bloc de questions qu'on va conclure et on te revient avec des questions en rafale.
Ça me fait plaisir. À tout de suite.
À tout de suite. Alors, Rachel, pour le prochain bloc d'entrevue, on va s'amuser un petit peu. On s'amuse avec des questions en rafale, c'est comme si c'est une phrase trouée.
Okay.
On commence la phrase, puis tu la termines. Parfait. Avec ce qui fait du sens pour toi, de façon très spontanée, sans trop réfléchir, puis sans trop développer.
OK.
Un peu comme à la Jackson Pollock, on pitch de la peinture.
Okay. On pitch des réponses.
C'est ça! Okay. Oui, bravo!
OK.
Alors, on commence. T'es prête? Prends un grand respire. Pour moi, l'art-thérapie, c'est...
Je dirais que c'est une discipline qui est unique, qui est complète en soi, puis qui permet de faire des découvertes sur soi, puis sur nos relations aux autres, au monde, par l'imagination et la création.
Bravo!
Pour moi, être art-thérapeute, c'est?
c'est être une accompagnante sur le chemin du mieux-être des personnes et de la société. Puis, un peu comme une alchimiste de la transformation créative.
Alchimiste?
Ouais, ce mot-là, quand j'ai lu vos questions, le mot m'est venu en tête. Je m'étais pris des petites notes, là. J'ai pas pondu ça en 4 secondes, là. Mais ce mot-là m'était venu en tête très fortement. Alchimiste. Mm-hmm. Ouais. À explorer.
Dans la transformation.
Ouais, la transformation, ouais.
Que c'est beau. La prochaine...
Sur le processus créatif,
merci.
Je crois.
Pour moi, le processus créatif, c'est?
C'est l'ouverture aux matériaux, l'ouverture à ces découvertes dont on vient de parler, puis les découvertes sur soi, puis les découvertes dans ce que les autres créent autour de soi aussi. Là, c'est sûr que dans les ruches, autre point qui fait peut-être pas l'unanimité dans le monde de l'art-thérapie, mais on crée en même temps que les participants. Puis, il y a quelque chose de très riche là, dans ce processus-là. Là. C'est comme si on allait toucher à l'inconscient collectif. Donc, c'est
tout ça. Le monde fait partie de quelque chose, ouais. Ensemble.
Ouais. Puis, ça devient aussi, je me permets de rajouter, je m'excuse, tu m'avais dit des réponses très courtes, mais ça devient aussi un mode de vie, dans le sens que, tu sais, à force de créer pratiquement tous les jours, on finit par regarder le monde avec des yeux différents, puis... moi, je fais beaucoup de photos, puis tu sais, je vois des photos, tu sais, même si je les prends pas,
wow.
Tu sais, je vois les plantes, la fenêtre, le divan, l'arrière, tu sais, je vois une photo, tu sais, on devient, ça transforme notre façon de regarder.
Et ça, c'est vraiment une belle suggestion. À ceux qui nous écoutent, là, allez créer.
Ouais. Pendant que vous nous écoutez, pourquoi ne pas créer?
Oui.
Ouais.
Aurais-tu une image, une phrase, un symbole ou un mot ou des mots qui représentent ton travail?
OK. une image, là, c'est sûr que, tu sais, c'est la ruche d'abeilles, c'est les petites alvéoles qui sont toutes différentes, toutes uniques, puis les abeilles qui travaillent ensemble vers une vision commune. C'est sûr que, dans le contexte, je peux pas sortir de ça. Puis... il y a une phrase, c'est en anglais, mais c'est, tu sais, « Start where you are, use what you have, do what you can ». Donc, commence où tu es maintenant, utilise ce qui est à la disposition, puis fais ce que tu peux. Puis je pense que c'est beaucoup ça, tu sais, que ce soit dans le moment présent, pendant qu'on facilite une ruche d'art, ou pour quelqu'un qui souhaiterait démarrer une pratique, Il y a toujours moyen de faire quelque chose maintenant, ici. Puis, tu sais, même face aux grandes problématiques de notre monde aussi, tu sais, c'est la même chose. Dans un sens, on peut pas individuellement tout changer, mais on peut faire une petite chose par-ci, par-là qui ferait une différence, puis qui... c'est ça. Fait que je vais aller avec ça.
Mmh. Wow! Une découverte récente que tu as faite et qui enrichit ta pratique comme art-thérapeute ou comme artiste, puis une découverte que tu aimerais partager avec tes collègues. Donc, ça peut être un matériel, un livre, une technique.
Oh mon Dieu, là, j'ai plein d'idées.
Oh,
à chaque mot que tu as dit, j'ai eu une idée différente en tête. Donc, je ne reparlerai pas de mon expérience en Ukraine, même si elle est vraiment une expérience saillante pour moi. Mais quand j'étais en Ontario pour donner une formation, il y avait une ruche d'art dans un autobus, le Living Room Community Art Studio, qui est maintenant une ruche d'art dans un petit autobus bleu.
J'ai vu des photos!
Ça, c'est extrêmement inspirant pour moi. On a parlé tantôt des ruches d'art mobiles. Un matériau, je sais pas, je dirais les peintures Beam. Je me permets de faire de la promotion parce que c'est des peintures qui sont faites par des femmes autochtones au Manitoba, à la main, en utilisant des ingrédients naturels.
Oh.
C'est magnifique, là, les pigments, comment c'est présenté. Moi, la palette que j'ai, c'est dans une planche de cèdre dans laquelle il y a des trous, puis les aquarelles sont dans les trous. Mais il y en a qui sont dans des coquillages. En tout cas, c'est magnifique. Là. Si vous ne connaissez pas ça, allez découvrir les peintures Beam, B-E-A-M. Puis un livre...
Marcelle, elle vient de frapper de quoi avec la peinture, là? Ouais. Tu viens de voir sa face!
Ouais, j'enregistrais ça, là,
c'est extraordinaire, franchement, là. Puis tu sais, ça soutient le travail des femmes autochtones, donc...
Wow! Merci!
Ouais, puis de rien. Puis un livre, il y a un nouveau livre qui s'appelle « Walking With »,
okay,
qui a été édité par les art-thérapeutes Monica Carpendale et Taffy Weinberg.
Oui.
Puis il y a plusieurs art-thérapeutes, là, incluant plusieurs art-thérapeutes québécoises qui ont des chapitres dans ce livre-là. Puis c'est vraiment cette idée-là d'accompagnante des clients, d'accompagnante du monde, d'accompagnante même, tu sais, de l'environnement, du monde naturel. C'est très, très varié, là. Il va être question de travailler avec les personnes en situation de handicap, avec les autochtones... l'éco-art-thérapie, la pratique studio ouvert, il y a énormément... mais c'est vraiment dans cette idée-là, tu sais, un peu moins hiérarchisée, un petit peu moins la différence de pouvoir entre le thérapeute et le client, puis plutôt d'être dans l'accompagnement, puis la circularité.
Mon Dieu, comment ça, t'avais pas un chapitre dans ce livre-là?
Ben, je savais même pas qu'il allait exister avant de le découvrir. Dans le fond, je suis allée à la conférence de l'Association canadienne d'art-thérapie à Saint-John's, à Terre-Neuve, en août dernier. Magnifique ville, d'ailleurs. Quand j'étais là-bas, je me demandais pourquoi personne m'avait dit qu'il fallait absolument que j'aille là. C'est tellement artistique. La ville, les maisons sont colorées, il y a énormément de galeries, d'artisans, de petites entreprises indépendantes. C'est fantastique, c'est merveilleux, sur le bord de la mer.
Wow.
Les cultures autochtones inuites sont très, très présentes. Franchement, allez-y. Si vous avez la chance, une heure et demie en avion, un autre plug, la ville de Saint-John's. Mais c'est durant cette conférence-là que j'ai découvert le livre.
Mm-hmm.
Puis en fait, c'était ma fête comme le lendemain, puis une de mes collègues avec qui j'étais me l'a offert en cadeau. Oh. Fait que quel beau cadeau.
Que c'est gentil.
Voilà. Fait que je vous le fais découvrir à vous aussi. C'est sûr qu'il faut lire l'anglais, mais ça, c'est un problème qu'on a. Je trouve qu'on n'a pas assez de livres en français, en art-thérapie. Il y en a, puis c'est merveilleux.
Ça se développe tranquillement, mais
sûrement. Mais même des traductions de livres internationaux.
Ça, c'est vrai. On n'a pas beaucoup même de traductions.
C'est ça.
Ça, c'est vrai. Oui.
Ouais.
Faut remédier à ça.
Oui, vraiment. Puis, t'aurais-tu un conseil à donner à un ou une art-thérapeute qui débute dans le métier?
Ben, de se faire confiance. Mm. Tu sais, déjà, je trouve que ça a énormément changé le paysage de l'art-thérapie depuis le moment où j'ai commencé ma maîtrise, puis maintenant. Déjà, à ce moment-là, tu sais, tu disais que t'étudies l'art-thérapie, puis les gens étaient comme « T'es quoi? Le quoi? » Puis maintenant, je trouve que c'est déjà beaucoup plus compris. Il y a déjà... une meilleure reconnaissance. il y a plus d'emplois aussi. Tu sais, au moment où j'ai commencé, il était beaucoup question de, tu sais, ben prépare-toi, tu sais, tu vas avoir 7 contrats à temps partiel pour arriver à payer ton loyer, tu sais. Mais je trouve que de plus en plus, il y a des gens, tu sais, qui ont des emplois à temps plein, puis des emplois correctement rémunérés, puis pour les gens qui font de la pratique privée, souvent, tu sais, un an après être sorti de l'école, ils arrivent à travailler à peu près autant... qui, elle, le souhaite. Donc, tu sais, je pense qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde, pour toutes les façons de travailler. Notre monde a besoin des art-thérapeutes, puis de plus en plus... c'est ça, la profession prend de l'ampleur. Puis, tu sais, oui, il y a toutes les questions de loi 21 et tout, mais je pense que, tu sais, oui, dans certains cas, c'est nécessaire et pertinent d'aller chercher ces qualifications-là, mais... Quand tu m'as demandé tantôt c'était quoi l'art thérapie pour moi, je pense que l'art thérapie en tant que telle, sans devoir la juxtaposer à un permis de psychothérapeute ou un autre titre, comme que ce soit thérapeute conjugal et familial ou psychologue ou quoi que ce soit, travailleur social, en tant que telle, l'art thérapie a tellement à apporter, puis est tellement riche, puis est tellement... Tu sais, on devrait même pas avoir besoin de titres supplémentaires. Tu sais, ça a tellement apporté au monde, puis il y a tellement de pénuries de professionnels en santé mentale, puis nous, on est là, tu sais, je veux dire, allô? Bref, ouais, je pense que je leur dirais de se faire confiance, puis de jamais penser qu'ils sont obligés d'aller faire autre chose de plus pour avoir du travail, puis avoir une carrière qui fait du sens.
J'aurais beaucoup aimé entendre
ça il y a 10 ans.
Ça il y a 10 ans.
Je pensais exactement la même chose. Ouais. Je me disais, hey, c'est vrai qu'en 10 ans, les choses ont bougé quand même pas mal.
Oui, oui.
Puis je m'en suis pas rendu compte jusqu'à ce que je t'entende là. Ça fait du bien, c'est rafraîchissant.
Oui.
Wow.
Mais tu sais, en ayant. C'est ça. Moi, j'ai étudié, j'ai fait la maîtrise sur 8 ans, donc j'ai croisé énormément de cohortes de personnes. Puis ensuite, j'ai continué à côtoyer des étudiants et étudiantes. Puis. Ça m'a permis de voir l'évolution du domaine, tu sais, quel genre de job, tu sais, les finissantes de cette année, là, il y en a qui ont déjà un emploi à temps plein qui les attend, là, comme art-thérapeute.
Wow! T'sais. Mon Dieu!
Tu sais, c'est pas la majorité, mais il y en a qui exulent.
Ça commence à arriver, oui.
Oui, puis déjà des gens qui ont, tu sais, il y a déjà plusieurs bureaux de pratique, tu sais, qui sont gérés par des art-thérapeutes, puis qui accueillent des nouvelles art-thérapeutes, puis tu sais, de plus en plus, il y a comme... des options, tu sais, des possibilités.
T'as raison.
Et ceci dit, qu'est-ce que tu souhaiterais pour l'art thérapie dans les prochaines années, là, si t'avais la baguette magique, là?
ben, je souhaiterais justement que l'art thérapie soit reconnue en tant que telle, sans avoir besoin d'aller chercher des qualifications supplémentaires, parce que je pense que les art thérapeutes, au Québec en particulier, tout le monde a une maîtrise, là. Tu sais, les programmes de formation donnent une maîtrise. Donc, on est déjà très formés, très qualifiés. Puis que les portes s'ouvrent toutes grandes pour que les art-thérapeutes de toutes les positions idéologiques aient une abondance d'emplois rémunérés de belles façons, avec des avantages sociaux et tout le reste. Que les portes s'ouvrent toutes grandes, là, pour les art-thérapeutes. Dans le monde du travail.
Merveilleux. Ouais. Donc, ça nous amène à notre dernier segment des questions en rafale. Je ne sais pas si tu avais compris, parce qu'il y a eu une petite confusion là, dans notre préparation, mais à chaque podcast, on demande à l'invité qui est là de poser une question au prochain invité.
OK!
Et ensuite, on va te demander, toi, de poser une question à notre prochaine invité pour la suite.
OK, tu parfait.
Vois, c'est un peu comme un jeu de questions tag. Donc là, on a Anne-Marie Jobin qui te pose la question suivante.
C'est pas n'importe qui.
Pas n'importe qui, hein?
Merci Anne-Marie de me poser une question.
Elle a une belle question qui je trouve qu'on retrouve beaucoup son essence dedans. Elle a demandé « Comment gardes-tu ta pratique vivante et connectée? »
Oh wow! Quelle belle question! Merci Anne-Marie. Ben d'abord, de prendre le temps de créer, puis j'ai la chance dans les ruches d'art que le contexte m'offre cette possibilité-là. Tu sais, j'ai pas besoin de me pelleter du temps en plus de mon horaire de travail. Souvent, ça en fait partie.
Wow!
Ça, c'est une chance incroyable. Donc, de prendre le temps de faire de l'art, là, sûr et certain. de rencontrer des collègues aussi, de prendre le temps, là, dans mon cas, c'est la rencontre de communauté de pratique des Ruches d'or, mais on a aussi les Ruches d'or de l'ATQ qui ont lieu une fois par mois. Mm-hmm. Puis, tu sais, il y a plein de façons de le faire, mais je pense que de prendre le temps de se nourrir mutuellement, puis, tu sais, de partager nos défis, mais aussi nos bons coups, nos rêves, nos inquiétudes, un peu de tout, mais tu sais, de pouvoir se parler en toute franchise et vulnérabilité de ce qu'on vit. Puis ensuite, ben, de voyager, que ce soit, tu sais, pour moi, de voyager de ruche en ruche, même si ce sont des ruches qui sont à Montréal ou dans les environs, mais d'aller les visiter, de rencontrer les gens, de m'asseoir à leur table, d'écouter leurs histoires, de voir quels matériaux ils ont, comment est-ce qu'eux aménagent leur espace. Tu sais, il y a toujours des petites différences, il y a toujours des petits trucs qu'on découvre. Mais tu sais, ça peut aussi être de voyager ailleurs dans d'autres pays aussi, si on, les moyens nous le permettent, puis le temps nous le permettent. Mais voyager, ça, c'est une chose que j'ai appris vraiment durant la pandémie, puis je suis sûre que beaucoup d'autres personnes l'ont apprise aussi. Mais tu sais, les voyages étaient, pour ainsi dire, interdits à ce moment-là. Fait que là, on se retrouvait à faire des voyages dans nos ruelles, à aller marcher, à aller voir les plantes, l'art de rue, à croiser des nouveaux chats. J'aime beaucoup les chats, j'en avais pas parlé encore, fallait que je dise quelque chose à propos des chats. Mais tu sais, de vraiment, c'est ça, se ressourcer créativement en voyant d'autres façons de faire, des nouveaux paysages, on n'est pas obligé d'aller très loin pour ça. Puis la dernière chose, ben, c'est de lire, d'écouter des conférences, de voir ce qui se fait de nouveau dans le domaine, de lire les journaux scientifiques, que ce soit celui de l'Association canadienne d'art-thérapie ou d'autres. C'est ça, de se garder informé sur les nouveaux développements, les nouvelles façons de faire dans le domaine. Je dirais que c'est à peu près ça.
Wow, wow! Quel beau modèle!
Rachel, merci tellement de nous avoir fait voyager à travers le monde des Ruches d'or. C'est vraiment, vraiment
c'est un grand
un
plaisir.
Podcast,
j'espère que vous pouvez le ressentir, que ça me fait autant plaisir que de vous en parler, que ça semble vous faire plaisir de l'écouter.
Mais on ne te laisse pas tout de suite parce qu'on la laisse nous dire une question qu'elle aimerait poser à une prochaine invitée.
Absolument.
Et là, on te prend un peu par surprise, je pense. Alors, vas-y vraiment spontanément avec ce qui vient, ce que tu aurais envie de discuter ou une question, que ça peut être philosophique ou pratico-pratique sur la vie.
Ben, il y a deux. Est-ce que j'ai droit à deux?
Oh, j'aime ça.
Vas-y, j'ai comme deux questions qui m'ont sont venues en tête à peu près en même temps. Il y en avait une qui m'était venue en tête un petit peu plus tôt quand tu as mentionné que je devrais préparer une question. Puis cette question-là était peut-être plus simple. Puis ce serait qui est ton inspiration comme art-thérapeute? T'sais, qui a été un mentor, que ce soit quelqu'un que tu as côtoyé dans la vraie vie? Ou quelqu'un dont les écrits, les enseignements t'ont fortement marqué. Puis la deuxième, plus complexe, peut-être que la personne aura le choix, je sais pas, mais ce serait comment penses-tu que l'art-thérapie peut contribuer à une plus grande tolérance dans le monde envers les personnes qui n'ont pas forcément les mêmes opinions politiques, les mêmes... Tu sais, comment est-ce que l'art-thérapie peut répondre à cette polarisation-là politique, idéologique, qui sévit un peu partout, là, de petites et de grandes façons? Je serais curieuse d'entendre les gens là-dessus. Là. Moi, je pense que si j'avais un podcast, je voudrais qu'on parle de ça.
Wow!
Parce que super. C'est ça, tu sais, autant qu'on a des... Il y a un progrès de certains mouvements sociaux, mais il y a comme toujours cette espèce de contre-mouvement qui arrive un peu en même temps. C'est ça. Je suis vraiment curieuse de voir comment est-ce que l'art-thérapie peut vraiment... on entend souvent ça, là, mais guérir le monde, c'est...
Ouais.
Mm-hmm. Ouais, ça serait ça. Ça, c'est la question un peu plus compliquée.
Super belle question.
Hey, tellement d'actualité. Elle nous pond ça en 20 secondes et quart.
Ben
hein?
Oui,
deux questions.
On ne lui avait pas envoyé d'avance.
Même pas.
Non. Ben, je me la pose beaucoup, tu sais. Je me la pose beaucoup, vraiment. Mm-hmm. Je trouve que particulièrement là, en ce moment, avec que ce soit la guerre au Moyen-Orient ou, tu sais, la montée de l'extrême droite... en Amérique du Nord.
Oui.
Voilà.
Super. Hey, merci pour tes lumières, pour ton enthousiasme de t'être déplacée un samedi soir.
Oui,
ça me fait tellement plaisir. C'est tellement de belles rencontres avec des collègues tellement agréables qu'on ne voit pas assez souvent. Fait que c'est le fun de prendre le temps puis de mieux se connaître. Là, il faudrait que ce soit vous qui répondiez à des questions.
Oui!
On va
oui.
t'inviter pour un autre podcast plus tard. Tu reviendras?
OK! Oui. Avec grand plaisir.
Merci, Rachel.
Merci, Rachel.
Ça me fait tellement plaisir d'avoir jasé avec vous deux ce soir.